Ainsi se termine notre voyage dans l'Odyssée du rythme.
Mardi 18 octobre 2016, il est 16h précise, 12 degrés ici à Victoria. Merci de syntoniser le 107,9 FM CILS, seule et unique radio communautaire francophone à l'ouest des Rocheuses. On lance tout de suite l'émission du jour avec les bulletins de Denis Lépine. Au retour, dans quelques minutes, on fait un petit topo météo. Ce sera suivi du bulletin des Nations Unies et de bien d'autres actualités, dont les actualités provinciales, notamment. En interview aujourd'hui, je reçois en studio l'artiste Nathalie Leduc qui nous parle d'une conférence qu'elle prononcera le samedi 29 octobre à 10h30 à la bibliothèque d'Oakbay, une conférence qui est parrainée par l'Alliance française de Victoria. Restez à l'écoute, ce sera vers 16h40. Alexis Gagnon, en votre compagnie jusqu'à 17h. Excellente émission à tous. La production du débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national et international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Le nouveau groupe d'experts sur l'emploi chez les jeunes vient d'entamer ses travaux. La première réunion a eu lieu en présence de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Marianne Maychuk. C'est le gouvernement Trudeau qui a mis sur pied le groupe. Le groupe aura pour mission d'aider le gouvernement à respecter son engagement de créer plus de débouchés pour les jeunes. Il évaluera les obstacles que doivent surmonter les jeunes, notamment chez les jeunes vulnérables, pour trouver et conserver un emploi. Le groupe présentera ses recommandations au gouvernement du Canada d'ici le 15 mars 2017. Le sommet Habitat 3 des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable se poursuit à Quito, en Équateur. Jean-Yves Duclos, le ministre canadien de la Famille, des Enfants et du Développement social, prend part aux discussions. Il a jusqu'à présent co-présidé une table ronde sur l'importance de l'inclusion et sur les mesures concrètes à prendre pour réaliser les engagements pris dans le cadre de la mise en œuvre du nouvel agenda urbain. Il a dit être impatient d'en apprendre davantage sur la façon dont les autres pays s'attaquent aux problèmes auxquels sont confrontés également les Canadiens. Une réunion des ministres de la Santé fédérale, provinciaux et territoriaux a lieu à Toronto aujourd'hui. La réunion est co-présidée par Jane Philpott, ministre de la Santé du gouvernement fédéral, et par le ministre de la Santé de l'Ontario, Eric Hoskins. Un point de presse suivra les discussions. L'événement a lieu à l'hôtel Omni King Edward à Toronto. Lancement de la ligne d'écoute pour le mieux-être des Premières Nations et des Inuits. Grâce à cette ligne nationale sans frais, bien les Premières Nations et les Inuits peuvent obtenir maintenant en tout temps des services immédiats en cas de crise adaptée à leur réalité culturelle. La ligne est financée à même la somme de 69 millions de dollars annoncée en juin 2016 par Ottawa pour soutenir les équipes d'intervention en cas de crise et des équipes de mieux-être mental. Le début aujourd'hui du sommet national manufacturier et exportateur Canada à Ottawa. Parmi les points à l'agenda, notons la publication du plan d'action pour doubler la fabrication d'ici 2030. Il est bon de rappeler que le plan est le résultat de la table ronde Industrie 2030 tenue plus tôt cette année. Selon le gouvernement, le plan comportera des lignes directrices sur l'exécution qui lui ont été présentées dans le cadre des consultations en matière d'innovation. Politique américaine, alors que le dernier débat à la présidence aura lieu mercredi soir, Donald Trump poursuit ses attaques à l'endroit du système électoral américain. Au cours des dernières heures, l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, et Newt Gingrich, ancien président de la Chambre des représentants, ont appuyé ouvertement le candidat républicain. Pour sa part, Hillary Clinton est toujours à l'écart du dossier. Son entourage a fait savoir qu'elle se prépare en vue du débat de demain soir. Le 25 octobre prochain, Scott Bryson, président du Conseil du Trésor, se joindra à la commissaire à l'information Suzanne Legault et à la professeure Mary Francoli de l'Université Carleton pour une discussion sur l'accès à l'information. La discussion abordera la demande du premier ministre Trudeau à l'endroit de ses nouveaux ministres de relever la barre en matière d'ouverture et de transparence au sein du gouvernement. Lancement aujourd'hui du nouveau rapport de la Commission de la santé mentale du Canada. Le rapport est intitulé « Arguments en faveur de la diversité ». Le rapport explique pourquoi le système de santé mentale du Canada doit répondre rapidement, adéquatement et de manière collaborative aux besoins des immigrants et des réfugiés. Selon The Hollywood Reporter, la référence américaine sur l'industrie du divertissement, quatre Canadiennes se retrouvent parmi les 20 femmes les plus puissantes de la télévision à l'échelle mondiale en 2016. Dévoilée à Cannes, la liste comporte les Canadiennes Valérie Crichton, présidente du Fonds des médias du Canada, Barbara Williams, vice-présidente directrice chez Corus Entertainment, Marianne Turk, présidente de Bell Canada, et Shahrzad Rafati, fondatrice de Broadband TV. Au sport, au baseball majeur, série de championnats dans la Ligue américaine, eh bien les Blue Jays sont dans les câbles. Revers hier de 4-2 contre Cleveland. Le quatrième et peut-être dernier match de cette série de championnats aura lieu cet après-midi, toujours à Toronto. Dans la Ligue nationale maintenant, bien le match numéro 3 de la série Los Angeles-Chicago sera disputé ce soir. La série est égale 1-1. Au hockey, bien Détroit a défait Ottawa 5-1, Boston 4, Winnipeg 1. Les Rangers de New York ont eu raison des Sharks de San Jose 7-4 et le Colorado a vaincu Pittsburgh en prolongation 4-3. Ce soir, l'Arizona sera à Ottawa, Pittsburgh à Montréal, Buffalo à Calgary, Vancouver recevra Saint-Louis et Edmonton fera de même avec la Caroline. Et dans la NFL, au match du lundi soir, victoire de l'Arizona 28-3 contre les Jets de New York.
Bienvenue dans le débrief, il est 16h06, c'était les bulletins de Denis Lépine, notre fidèle collaborateur. On va faire un petit topo météo, un bref regard sur la météo du Grand Victoria. On a actuellement 13 degrés sur Victoria, c'est un mélange soleil-nuage dans le ciel de Victoria. Pour les prochaines heures, on a une probabilité d'averse de 40%. Donc les nuages continuent d'être très présents dans le ciel de Victoria. Ce sera également le cas demain 19 octobre. 30% de probabilité d'averse en cours de journée demain mercredi avec un maximum de 11 degrés. Pour jeudi, le mercure monte de 2-3 degrés à 14 et le ciel demeure couvert avec de la pluie. Vendredi, on nous prévoit de la pluie également et ça se poursuit durant le week-end, donc pas de répit. Les nuages sont installés à demeure sur Victoria. Toutes les infos sur meteo.gc.ca. On écoute tout de suite le bulletin des Nations Unies et on se retrouve de l'autre côté avec les nouvelles provinciales.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jérôme Longuet pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Avec à la une l'annonce par la Russie d'un arrêt des raids aériens à Alep pour préparer la mise en œuvre d'une pause humanitaire de 8 heures jeudi. Une nouvelle cessation des hostilités également annoncée au Yémen. Nous ferons le point sur la situation en Haïti, 11 jours après l'ouragan Matthew. Et puis un dossier coup de projecteur avec le HCR sur la crise humanitaire tant redoutée qui s'annonce à Mossoul en Irak. Mais d'abord, on reparle de la Syrie. L'armée russe a annoncé lundi un arrêt immédiat des raids aériens des aviations russes et syriennes à Alep pour préparer la mise en œuvre d'une pause humanitaire jeudi dans la deuxième ville de Syrie. Selon des informations fournies par les médias, Moscou justifie cet arrêt anticipé des raids par la nécessité d'une mise en œuvre de la pause humanitaire pour permettre aux civils de quitter Alep jeudi. Mais si l'ONU a salué cette annonce, elle attend désormais des assurances avant d'envoyer des humanitaires dans l'est d'Alep. Alpha Diallo.
Il faut que toutes les armes se taisent avant qu'une aide humanitaire d'urgence soit livrée dans la zone et que les malades ou blessés puissent être évacués de l'Est d'Alep. Lors d'un point de presse ce mardi à Genève, le porte-parole du Bureau des Nations Unies de la coordination des affaires humanitaires a réagi à l'annonce faite hier par Moscou sur l'arrêt des raids aériens syriens et russes dans cette zone orientale de la deuxième ville syrienne. Jens Larke a rappelé que les humanitaires sont bien sûr satisfaits s'il y a une réduction des combats parce que cela protégera les civils. Si l'ONU s'est félicitée de cette annonce, elle s'attend tout de même à plus de garanties sécuritaires de la part de toutes les parties avant d'apporter une aide humanitaire à Alep. Une façon pour l'ONU de plaider pour que la trêve de jeudi entre 8h et 16h locales soit plus longue afin de permettre la livraison de l'aide humanitaire. En effet, les Nations Unies comptent réclamer une pause humanitaire de 48 heures, un répit qui permettrait de fournir une aide et surtout d'évacuer les malades et les blessés d'Alep Est. Alpha Diallo, Genève pour la Radio des Nations Unies.
Et puis autre nouvelle cessation des hostilités, celle annoncée au Yémen. Elle devrait être appliquée à partir de ce mercredi 19 octobre selon l'envoyé spécial du secrétaire général pour le Yémen, Ismail Ould Sheikh Ahmed, qui a obtenu l'assurance de l'ensemble des parties yéménites qu'elle s'engageait à nouveau à honorer les termes et les conditions de la cessation des hostilités conclue le 10 avril. Le point avec Isabelle Dupuis.
La cessation des hostilités au Yémen devrait entrer en vigueur mercredi à partir de 23h59 heure locale pour une période initiale de 72 heures avec possibilité de renouvellement. Ismail Ould Sheikh Ahmed a salué le rétablissement de cet accord qui épargnera d'autres effusions de sang et permettra d'élargir la livraison de l'aide humanitaire. L'envoyé spécial encourage l'ensemble des parties yéménites ainsi que la communauté internationale à pleinement respecter la cessation des hostilités et à veiller à ce qu'elle conduise à une fin permanente et durable du conflit au Yémen. Ismaël Doudchek Ahmed appelle aussi à la remise sur pied immédiate du comité de désescalade et de coordination et au déploiement de ses membres dans la région de Daran al-Janoub, comme cela a été convenu lors des pourparlers du Koweït. L'envoyé spécial a également rappelé aux parties qu'outre l'arrêt complet d'activités militaires de tout genre, les termes et les conditions de la cessation des hostilités portent sur l'obligation d'assurer un acheminement libre et sans entrave d'aide et de personnel humanitaire dans l'ensemble du Yémen.
En Haïti, l'ouragan Matthew a plongé le pays dans une crise comparable à celle du séisme en 2010. 11 jours après son passage, les Haïtiens restent forts, même s'ils sont frustrés et ont énormément de besoins, notamment dans les campagnes. C'est ce qu'a affirmé ce mardi le conseil spécial du secrétaire général chargé de la réponse au choléra de l'ONU en Haïti à l'issue d'une visite de 4 jours sur place. David Nabarro explique que la riposte est d'une difficulté extraordinaire, qu'il reste encore à évaluer les besoins dans environ 15% des zones affectées et qu'il faut aussi rétablir les routes. David Nabarro.
J'étais avec les Haïtiens dans les centres de santé, les gens qui travaillent là. J'ai rencontré les Haïtiens dans les groupes, j'ai rencontré avec les Haïtiens dans le gouvernement et dans les organisations non gouvernementales. Toujours, je trouve un esprit qui est fort, mais aussi ils sont frustrés avec le délai des besoins. Ils comprennent que c'est difficile, mais aussi ils ont les besoins qui sont forts. Et pour ça, c'est très important que tous les membres dans le report sont absolument dans une situation d'alerte pour donner l'aide, donner les services, donner l'appui partout. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on pousse avec le report encore quelques semaines, peut-être quelques mois, parce que c'est une très très grande catastrophe.
Et puis fin d'une époque en Côte d'Ivoire où l'ONUSI, l'opération des Nations Unies créée fin février 2004 par le Conseil de sécurité, a remis ce lundi un document renfermant le plan de transfert de ses activités au gouvernement ivoirien et à l'équipe pays du système des Nations Unies. La correspondance de Jean-Claude Comé d'ONUSI FM.
Ce plan de transfert des activités de l'ONUSI au gouvernement et à l'équipe pays du système des Nations Unies a déterminé certains défis énumérés ici par Aïchatou Mindaoudou, la chef de l'ONUSI.
La cohésion sociale, les droits de l'homme et la justice transitionnelle, la réforme du secteur de sécurité, la démobilisation, le désarmement et la réintégration, la gestion des armes et le désarmement civil, la défense, la sécurité et le maintien de l'ordre et enfin le transfert de l'ONUSI FM.
Pour le volet financement, c'est un montant de 50 millions de dollars qui doit être mobilisé. Le gouvernement ivoirien a quant à lui réaffirmé son engagement à œuvrer pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre ivoirien.
La poursuite du dialogue politique avec l'opposition, le renforcement du dialogue social sont autant de facteurs qui permettront de garantir la stabilité politique de même qu'un développement durable.
Pour rappel, c'est en juin 2017 que l'ONU prévoit la fermeture de sa mission de paix en Côte d'Ivoire.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur la situation en Irak. Selon le scénario le plus pessimiste redouté par les agences humanitaires, l'assaut contre Mossoul pourrait générer plus d'un million de civils déplacés fuyant les zones urbaines. Et selon le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'urgence est de se préparer à fournir une assistance à des centaines de milliers d'entre eux qui ont naturellement besoin des abris et d'autres services essentiels. Pour en savoir plus, Alpha Diallo a tendu son micro à William Spindler, porte-parole du HCR.
L'offensive qui a commencé hier pour recapturer la ville de Mossoul, qui est la deuxième ville la plus importante de l'Irak, a le potentiel de se traduire dans une grave crise humanitaire à cause du nombre de personnes qui pourraient être affectées, surtout pour les déplacements forcés. Il y a déjà 3,3 millions de personnes déplacées à l'intérieur de l'Irak, c'est-à-dire une personne sur 10 de la population est déplacée. Et avec cette nouvelle offensive et les combats qui ont commencé hier, peut-être 1 million ou même plus de personnes pourraient être déplacées par les combats.
Le HCR parle d'une éventuelle catastrophe humanitaire et aussi bien au Tchad que le HCR parle d'un déplacement de 1,5 million de personnes. Mais en termes de réfugiés, est-ce que vous avez des prévisions par rapport aux Irakiens qui risquent de fuir dans les pays voisins?
Oui, il y a eu déjà des Irakiens qui ont parti par les pays voisins, notamment la Syrie, où il y a déjà 26 000 réfugiés irakiens. Là, il y a 3 camps pour les réfugiés irakiens et on est en train de renforcer la capacité pour accueillir 90 000 nouveaux réfugiés qui pourraient arriver en Syrie à partir de l'Irak.
Ces combats à Mossoul, c'est au mois d'octobre, avec l'hiver qui s'annonce et les pluies qui risquent de s'annoncer aussi dans cette partie Moyen-Orient. Qu'est-ce que ça vous pose comme défi logistique pour accueillir autant de déplacés et autant de réfugiés dans le futur?
La situation est déjà difficile pour les 3,3 millions de personnes déplacées à l'intérieur de l'Irak. Et avec personnes qui pourraient être déplacées dans les mois à venir, la situation pourrait devenir vraiment critique. Et c'est pour ça que c'est absolument urgent d'avoir un appui financier suffisant pour répondre à cette crise. Nous estimons que parmi les personnes qui seront déplacées par les combats à Mossoul, quelques 700 000 personnes auraient besoin d'aide humanitaire dans les mois à venir. Et jusque maintenant, nos appels de fonds ont reçu que 39% des fonds nécessaires. La communauté internationale doit répondre aux besoins du peuple irakien dans ces moments où les combats contre le groupe de l'État islamique à Mossoul pourraient avoir comme conséquence des déplacements massifs à l'intérieur de l'Irak et même des réfugiés qui pourraient aller dans des autres pays.
À cet égard, est-ce que vous avez des retours de vos collègues sur le terrain à Mossoul qui vous disent que les déplacés ont commencé à rejoindre les camps, les abris financés par la chair?
Non, jusque maintenant, on n'a pas eu de nouveaux déplacements. L'offensive vient de commencer. Quelques villages autour de Mossoul ont été pris par les forces gouvernementales, le Peshmerga, les forces kurdes. Mais c'est des régions de petits villages avec une faible population. Et jusque maintenant, on n'a pas eu de déplacements massifs. Mais dans les jours à venir, si les combats commencent à arriver dans les zones où la population est concentrée, les zones urbaines de Mossoul, on craint une augmentation du nombre de personnes déplacées.
Voilà, fin de ce journal de la Radio des Nations Unies à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Vous écoutez le débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci d'être avec nous. Merci aux auditeurs qui nous écoutent également en rediffusion dans la matinée du 19 octobre. On passe à présent aux nouvelles provinciales. C'est la portion provinciale de l'émission. La Colombie-Britannique est-elle prête pour le prochain méga-séisme? C'est la question que pose le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique aujourd'hui. Un papier qui détaille un petit peu l'action de la ministre Naomi Yamamoto. Je vous en lis quelques passages. La ministre d'État à la préparation aux situations d'urgence de la Colombie-Britannique, Naomi Yamamoto, indique que son ministère a mis en place de nombreuses mesures pour mieux se préparer au prochain gros séisme. En 2014, un rapport des services d'urgence avait révélé que la province n'était pas prête à intervenir en cas de tremblement de terre majeur. La ministre confirme que depuis sa nomination, le gouvernement a mis en place de nombreuses mesures pour améliorer la situation, comme la création d'un plan d'intervention immédiate, l'organisation d'exercices de simulation grandeur nature à Port Alberni, à l'est de l'île de Vancouver, la mise en place d'un programme de formation en cas de catastrophe dans les écoles primaires et la mise aux normes sismiques de nombreux immeubles et ponts de la province. Il y a encore beaucoup de travail devant nous et nous devons placer la barre encore plus haut, a déclaré la ministre Naomi Yamamoto. C'est rapporté, comme je le disais, par Radio-Canada sur le portail Radio-Canada Colombie-Britannique aujourd'hui. Un des domaines sur lesquels la province de Colombie-Britannique porte toute son attention concerne l'éducation, a indiqué la ministre en substance. Le gouvernement a d'ailleurs développé un programme spécial pour les élèves de sixième année afin de les sensibiliser aux bons réflexes en cas de tremblement de terre. On avait parlé de la possibilité, de la probabilité d'un tremblement de terre majeur en Colombie-Britannique dans une édition du débrief il y a peut-être une dizaine de jours, certains s'en souviendront. C'est une nouvelle qu'on signalait aux auditeurs, une nouvelle qui indiquait que la probabilité de séisme majeur augmente sensiblement à tous les 14 mois durant une période d'environ 14 jours, durant deux semaines finalement, et cela en vertu d'un glissement glissement particulier des plaques tectoniques lors de cette période, donc à tous les 14 mois. Les séismes sont possibles dans notre région, c'est bon de se le rappeler. Et de s'informer le plus possible aux meilleures pratiques, aux meilleures façons de faire, aux meilleures réactions en cas justement de tremblement de terre. Je vous parle à présent d'aide aux jeunes adultes et particulièrement de l'aide que fournit la Colombie-Britannique aux jeunes adultes qui étaient auparavant sous la tutelle de l'État. La Colombie-Britannique étant l'aide financière fournie aux jeunes adultes de 19 ans et plus qui ont grandi sous la tutelle de l'État. C'est rapporté également par Radio-Canada aujourd'hui. La ministre des Enfants et du Développement de la Famille de la Colombie-Britannique, Stéphanie Cadieux, indique que les jeunes qui étaient formellement à la charge de l'État seront maintenant admissibles à du financement jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 26 ans et non plus l'âge de 24 ans comme c'était le cas auparavant. La ministre Cadieux s'attend à ce que ce changement double le nombre de bénéficiaires du programme. Selon l'annonce faite en début de semaine, un peu plus de 1100 jeunes seront touchés et les coûts du programme passeront de 3,7 millions de dollars à plus de 5 millions de dollars. Je vous signale par ailleurs une nouvelle qui concerne le saumon sauvage et le saumon d'élevage. Des écologistes contestent en cour le saumon génétiquement modifié. Ça se passe ici dans notre province. Des groupes environnementaux contestaient devant la Cour fédérale aujourd'hui mardi une décision d'Ottawa d'autoriser la production de saumon génétiquement modifié. Le mécanisme d'approbation s'est fait à huis clos, a dénoncé Karen Riston, directrice générale d'un des groupes écologistes en cours, le Living Oceans Society de Colombie-Britannique. Il n'y a pas eu de réflexion avec les Canadiens sur la modification du patrimoine génétique d'animaux destinés à la consommation, a déploré Karen Riston. Celle-ci et d'autres groupes écologistes s'inquiètent également que les poissons modifiés génétiquement s'échappent en mer de leur centre piscicole pour se retrouver en milieu sauvage et se reproduire donc avec des saumons sauvages, ce qui mènerait à la disparition de l'espèce à terme. Des écologistes ont porté le gouvernement fédéral devant les tribunaux en affirmant qu'Ottawa n'avait pas respecté la loi canadienne sur la protection de l'environnement. En décembre 2015, un juge fédéral avait rejeté cet argument et les écologistes ont donc fait appel de cette décision devant la Cour fédérale. Donc un dossier à suivre, saumon sauvage, saumon d'élevage et saumon génétiquement modifié. On passe maintenant à une nouvelle qui concerne la santé de notre faune maritime et celle de l'environnement. Je vous avais parlé hier et la semaine dernière du naufrage du remorqueur Nathan E. Stewart. Donc, c'est un remorqueur de bateaux pétroliers. On les appelle les tugboats en anglais. On a obtenu aujourd'hui, finalement, une déclaration du ministre fédéral des Transports, Marc Garneau. Celui-ci déclare « Nous travaillons en étroite collaboration avec la garde côtière canadienne, la province de Colombie-Britannique, la collectivité de Bella Bella, la Western Canada Marine Response Corporation et la Première Nation Aitu afin d'appuyer des mesures de confinement immédiates, de coordonner les activités de sauvetage, et afin d'aider les collectivités touchées non seulement tout au long des activités d'intervention, mais aussi une fois que ces activités seront terminées. Donc c'est la déclaration du ministre Marc Garneau en réaction à cet incident qui a vu un remorqueur échouer sur l'île de Bella Bella, sur le littoral nord de la Colombie. Britannique, un endroit assez délicat pour la navigation. Et c'est justement une région où bien des projets pétroliers de transport par pipeline sont sur la planche à dessin. Donc il s'agit d'une énième preuve de la dangerosité de ce littoral pour la navigation commerciale et particulièrement la navigation de pétroliers qui sont gorgés de produits pétroliers. Alors, ce qu'il faut retenir dans cette affaire de naufrage du remorqueur sur Bella Bella, c'est que 200 000 litres de diesel sont en cause dans cet incident. Une fraction de cette quantité a pu être récupérée lors des opérations menées par les différentes autorités. Le diesel, il faut le mentionner, est connu pour être particulièrement difficile à récupérer et à nettoyer. Et par ailleurs, il faut savoir que les Premières Nations sur place estiment que le déversement n'a pas été contenu, loin s'en faut. Les Premières Nations fustigent les gouvernements provincial et fédéral qu'ils jugent coupés de la réalité locale, aveugles aux problèmes de subsistance des pêcheurs de palourde. Et il faut savoir par ailleurs que la saison de pêche à la palourde doit débuter dans 3 semaines. Inutile de dire qu'elle est largement compromise. Et signalons enfin que des leaders des Premières Nations appellent à l'instauration d'un moratoire sur la circulation des bateaux pétroliers dans cette région du littoral de la Colombie-Britannique. Ces mêmes leaders donc estiment qu'il faut davantage qu'un simple moratoire par la suite, parce que, font-ils remarquer, le moratoire n'aurait pas été suffisant dans le cas de ce remorqueur donc qui contenait 200 000 litres de diesel. On s'arrête quelques instants pour faire une petite pause musicale avec la formation Les Frères Cueilleurs. On écoute une pièce qui s'intitule Coucou les couscous, coucou les coucous, pardon, et on se retrouve de l'autre côté pour les nouvelles du jour.
Aucun pays les genévriers. Non, smoking and loud. Non, smoking and loud. Interdit de bouger le mobilier. Interdit de bouger le mobilier. Non, smoking and loud. Non, smoking and loud. Interdit de bouger le mobilier. Interdit de bouger le mobilier.
Rien qu'une vie, je veux en profiter. J'aimerais pouvoir la rembobiner. Retchiquer mes rêves enregistrés. Tant que l'école sort du robinet. J'aimerais poser tant qu'à profiler. Veiller pour t'en l'utiliser. Ça wave every day comme un surfer l'été. As-tu vu le dernier burn of the case? Maximum shout-out à SVC. On rêve de slipper du PSOP. Amen.
Non smoking allowed. Non smoking allowed. Interdit de bouger le mobilier. Interdit de bouger le mobilier. Non smoking allowed. Non smoking allowed.
Non, les animaux sont pas permis, mais ça compte sur ma liste.
Chase long game baseball, mixing the burning king down, face palm, cuts rap dude, cuts brag fool, cuts a dick to stack loot, you that's not true. Broke as fuck, I'm bobbing now. Bad luck, well, I'll be damned. I shoot hoops from Deuce Puss. Man, I oof books, I'm raising hell. 2 scoops, the couscous be the Fruit Loops, dummy raisin brain. Y'all know if it's flavored, man. Y'all know if it's flavored, man.
les frères cueilleurs, formation montréalaise dans le débrief à 16h28. Si vous nous écoutez en rediffusion dans la matinée du 19 octobre, merci d'être avec nous. Bienvenue à bord. On va passer aux nouvelles du jour maintenant. Je vous propose ce topo récapitulatif qu'on trouve dans les pages du Devoir aujourd'hui. C'est un récapitulatif de la première année au pouvoir du gouvernement Trudeau. Ça va faire bientôt un an, à quelques jours près, que le gouvernement Trudeau est au pouvoir à Ottawa. Et c'est un gouvernement qu'on a souvent malmené. On l'a beaucoup accusé de ne pas tenir ses promesses, y compris ici dans le modeste débrief. On a rapporté des articles qui étaient fort critiques à l'endroit du gouvernement Trudeau. Je vais faire un petit équilibre. On va rétablir l'équilibre, si vous voulez, puisque ce papier paru dans Le Devoir aujourd'hui est assez favorable au gouvernement Trudeau. Vous allez comprendre, je vous lis le paragraphe d'introduction tout de suite. Il est de bon ton ces jours-ci de railler le gouvernement Trudeau qui multiplie les consultations, donnant l'impression qu'il retarde les décisions. La première année du mandat libéral a pourtant été riche en réalisations, survol non exhaustif. Donc le Devoir s'est fendu d'une liste des réalisations de la première année du gouvernement Trudeau. Et somme toute, c'est assez convaincant. On commence cette liste dans Le Devoir avec la révision des paliers d'imposition, le nouveau taux de 33% pour les revenus de plus de 200 000 $. Ensuite, bonification des allocations familiales, abolition du fractionnement du revenu. C'était une mesure qui était détestée et qui favorisait surtout les foyers les plus riches. Alors, cette mesure qui nous avait été laissée par le gouvernement Harper a été abolie, signale Le Devoir. Abolition également du crédit d'impôt pour l'activité physique artistique des enfants. Restauration du crédit d'impôt pour les cotisations au fonds de travailleurs. Réduction de moitié de la période de carence et diminution du nombre d'heures pour se qualifier à l'assurance emploi. Donc, pour une fois, une mesure qui ne nuisait pas ou qui ne visait pas les chômeurs. On avait une tendance lourde depuis des décennies à réduire l'assurance emploi à une peau de chagrin. Alors, Le Devoir signale donc cette réduction de moitié de la période de carence et diminution du nombre d'heures pour se qualifier à l'assurance emploi. Accueil de 25 000 réfugiés, c'est dans la liste compilée par Le Devoir également. Réorientation de la mission militaire canadienne en Irak. Abolition de la déchéance de nationalité en cas de terrorisme. Légalisation de l'aide médicale à mourir. Bon, ça, il faut voir. Ça se discute puisque la loi libérale qui est entrée en vigueur, je crois, en juin dernier, a suscité de nombreuses critiques parce qu'elle était quasi inapplicable. Mais bon, passons, poursuivons dans cette liste du journal Le Devoir. Nouveau mode de sélection des sénateurs, nouveau mode de sélection des juges à la Cour suprême, rétablissement du programme de contestation judiciaire, abolition des visas imposés aux Mexicains, donc aux ressortissants du Mexique, retour du recensement long obligatoire, ce qui a été vraiment applaudi, effectivement. Ratification de l'accord de l'accord de Paris sur les changements climatiques, effectivement. Là encore, il faudrait développer et discuter puisque le gouvernement prend aussi des décisions qui nuisent à cet accord de Paris sur les changements climatiques. Donc il y a des grosses contradictions dans l'action du gouvernement actuellement dans le dossier du climat. Continuons dans cette liste. Il reste 4 points. Rétablissement de la demande de clémence pour tous les Canadiens faisant face à la peine de mort à l'étranger. Réduction de 5 ans de la période d'abstinence imposée aux gays voulant donner du sang. Augmentation du budget de la Société Radio-Canada de 675 millions de dollars sur 5 ans. Plusieurs diront que c'est très modeste. Néanmoins, c'est quand même mieux que ce qu'on avait connu sous Harper. et finalement mise en place d'une commission d'enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées. Très très important, donc ce dernier point qui clôt cette liste d'accomplissements signalée par le devoir accomplissement du gouvernement de Justin Trudeau au cours de sa première année au pouvoir à Ottawa. Donc plusieurs de ces points pourraient faire l'objet de discussions, voilà, c'est quand même c'était quand même nécessaire de signaler cet article paru dans Le Devoir aujourd'hui. Je vous parle aussi du libre-échange entre l'Europe et le Canada. Vous savez qu'un accord est sur le point de se signer entre le Canada et l'Europe. L'acronyme de cet accord, c'est CETA en anglais. Donc, ça concerne le libre-échange entre les deux entités, entre le Canada et l'Europe. Et Mediapart et plusieurs autres médias nous informent aujourd'hui que l'avenir du CETA, comme on l'appelle, est toujours suspendu au veto de la Wallonie. On signale donc ce revers dans le processus de ratification de l'accord de libre-échange avec le Canada dans les pages du Mediapart. Les 28 ministres du commerce réunis aujourd'hui mardi au Luxembourg n'ont pu donner leur feu vert faute d'unanimité. La Commission européenne peine à répondre aux inquiétudes des députés wallons qui restent opposés au texte. Alors, qui sont ces députés wallons? Alors, la Wallonie, c'est en Belgique et la Belgique est un système fédéral. Le gouvernement belge ne peut donc pas se prononcer seul sur les décisions commerciales comme cet accord de libre-échange Canada-Europe. Alors, comme l'indique le titre, le CETA est suspendu au veto de la Wallonie, car le Parlement belge doit disposer du feu vert du Parlement régional wallon. La Wallonie compte 3,6 millions d'habitants. Donc, est-ce que c'est la fin du CETA? Non, mais indique le média Mediapart sur le portail Mediapart.fr, mais l'édifice tremble et avec lui la vingtaine d'autres accords de libre-échange qui sont en cours. Cours de négociation par l'Union européenne, dont le fameux TAFTA ou le TTIP, qui est en chantier avec les États-Unis, et d'autres accords qui pointent à l'horizon, un accord avec le Japon, le Vietnam et même le Mexique. Alors, quel que soit l'endroit d'où on le regarde ces temps-ci, le projet européen continue de se défaire. C'est le commentaire éditorial de ce journaliste Ludovic Lamant dans les pages de Mediapart. On poursuit là dans le débrief. Je vous parle de la décision d'Ottawa de se pencher sur les règles après l'accident d'avion qui a coûté la vie à Jim Prentice. Rappelez-vous, Jim Prentice, ancien premier ministre d'Alberta, a perdu la vie dans un accident d'avion il y a quelques jours. Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, étudie actuellement la possibilité de changer les règles en matière d'enregistreurs de bord dans les petits avions à la suite de cet écrasement qui a coûté la vie à Jim Prentice. Autrement, je clôt ce bloc nouvelle du jour avec une autre dépêche qui concerne Justin Trudeau. Justin Trudeau demande des comptes aux provinces. Le premier ministre déplore le détournement de fonds fédéraux vers d'autres programmes alors que les ministres de la Santé du pays se rencontrent à Toronto aujourd'hui mardi pour négocier le financement de leur système de santé. Justin Trudeau a lancé un pavé dans la mare. Pas question de bonifier le transfert en santé parce qu'à l'heure actuelle, les provinces détournent ces fonds vers d'autres programmes, selon lui. Futur de tout nouvel investissement d'Ottawa, donc un bras de fer se dessine entre Ottawa et les provinces sur le taux de transfert, les montants transférés et leur utilisation ultérieure. On s'arrête quelques instants en intermède musical. Au retour, on essaie de faire le tour de quelques éditoriaux parus dans la presse francophone un petit peu partout. On se retrouve dans quelques instants. Alors, on parlait du CETA il y a quelques instants à peine. On en reparle à présent dans le bloc éditorial de l'émission Le Débrief. Je vous signale ce papier d'opinion, cette lettre ouverte signée par Claude Vaillancourt. Claude Vaillancourt est président d'une association qui s'appelle Attaque Québec. C'est une association qui appartient à la mouvance altermondialiste. Et donc, Claude Vaillancourt, qui est signataire de cette lettre ouverte et opposée à cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe. Je vous lis quelques passages de la lettre qu'il adresse au gouvernement Trudeau. « Monsieur Trudeau, vous êtes devenu ces derniers jours un grand défenseur de l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Les arguments que vous avez utilisés à ces fins ne nous ont pas convaincus. Je dirais même qu'ils nous ont plutôt montré à quel point vous êtes dans l'erreur. Vous proclamez que cet accord de libre-échange Canada-Europe est un accord « progressiste » entre guillemets, parce que vous vous qualifiez de progressiste, vous imaginez que tout ce que vous touchez le devient automatiquement. La vérité, c'est que cet accord de libre-échange Canada-Europe causera des pertes d'emplois au Canada et en Europe, qu'il fera des pressions à la baisse sur les salaires en mettant les travailleurs et les travailleuses en concurrence les uns contre les autres. La vérité, c'est que cet accord n'est associé à aucun mécanisme de redistribution de la richesse, qu'il n'agit en rien, par exemple, contre la concurrence fiscale, qui est un des grand problème de l'heure. Cet accord de libre-échange Canada-Europe, par ailleurs, n'offre rien pour protéger l'environnement. Bien au contraire, il donne aux grandes entreprises des moyens pour intervenir contre les réglementations environnementales qui, selon elles, limiteraient leurs profits. Cet accord affaiblit les services publics et ne permet en rien de renforcer les programmes sociaux. Vous avez dit, M. Trudeau, lors d'une conférence à Ottawa, que vous avez fait énormément d'améliorations à l'accord. C'est faux. Vous avez repris tel quel ce qui était négocié par les conservateurs de votre prédécesseur, Stephen Harper. La continuité entre ce gouvernement passé que vous avez tant décrié et le vôtre est sans faille, à l'exception de minuscules changements cosmétiques. Vous avez également déclaré, si l'Europe n'arrive pas à signer cet accord, ça va être un message très clair, pas seulement aux Européens, mais au monde entier, que l'Europe est en train de choisir une voie qui n'est pas très productive, ni pour ses citoyens, ni pour le monde. N'est-ce pas exactement le contraire, demande Claude Vaillancourt dans ce papier intitulé « Vous vous trompez, monsieur Trudeau » et c'est publié sur le Huffington Post francophone. Vous trouverez ça sur québec.huffingtonpost.ca. Je sais pas si j'ai encore le temps de vous en lire quelques lignes. Allons-y encore pour quelques lignes. Les centaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue pour protester. La pétition de plus de 3 millions de signatures contre cet accord de libre-échange Canada-Europe montre bien que selon les Canadiens, c'est plutôt l'accord de libre-échange en tant que tel qui n'est pas productif pour les populations. Renoncer à cet accord, c'est aussi renoncer à un texte rempli de clauses sibyllines très complexes qui empêcheront de mettre en place des mesures progressistes, justement. Si les peuples européens ont un beau message à envoyer au monde entier, c'est bien dans leur résistance à des accords commerciaux qui favorisent le développement des inégalités. Donc le texte se poursuit encore sur plusieurs paragraphes, je vous encourage à le consulter. C'est signé par Claude Vaillancourt, il est président d'Attaque Québec, c'est un organisme qui s'inscrit dans la mouvance altermondialiste. Alors vous l'aurez compris, Claude Vaillancourt est en accord avec les députés de Wallonie, dont je vous parlais un petit peu plus tôt, ces députés qui ont opposé leur veto à la signature par l'Europe à cet accord de libre-échange Canada-Europe. Donc un dossier à suivre, l'accord semble menacé, mais il pourrait quand même passer au cours des prochaines semaines. On va suivre ça attentivement. On se rend à l'interview à présent Je vous le disais d'entrée de jeu, en introduction d'émission, je reçois en studio l'artiste Nathalie Leduc. C'est une artiste de Victoria. Elle fait des installations, elle fait des sculptures. Elle revenait récemment du festival Burning Man où elle avait une œuvre en présentation, une œuvre ambulante, le Churnatron, dont elle nous avait fait une description détaillée. On retrouve Nathalie cette fois qui nous parle d'une conférence qu'elle va donner sur sa pratique artistique, justement, le samedi 29 octobre à 10h30 à la bibliothèque d'Oak Bay. C'est un rendez-vous. C'est une conférence qui est parrainée par l'Alliance française de Victoria. On écoute ça dans quelques instants. Vous écoutez CILS FM 107,9. C'est le moment de l'interview. J'accueille en studio l'artiste de Victoria, Nathalie Leduc. Bonjour Nathalie.
Bonjour Alexis.
Alors Nathalie, tu effectues ta visite hebdomadaire à l'émission Le Débrief. On est très heureux de te retrouver en studio. Et cette fois-ci, exception à la règle, on ne parle pas de tes voyages ni de tes lectures. Pas de chronique littéraire aujourd'hui. On parle d'une conférence que tu vas donner prochainement à la bibliothèque d'Oak Bay. Sur quoi ça va porter?
Ça va porter sur le côté non pratique de certains de mes projets. Le titre, d'accord, ça va être le côté non pratique des choses.
Alors, quel est ce côté? Est-ce que c'est un côté obscur? Est-ce que c'est un côté... Moi, je
pense pas que ce soit un côté obscur. Je pense que c'est plutôt un côté joyeux, en fait.
Ah oui?
Oui.
On s'en accommode bien?
J'espère.
Mais c'est non pratique.
Oui, parce que, bon, dans la vie de tous les jours... On recherche beaucoup le pratique, le côté pratique des choses. On recherche l'efficacité, le progrès, l'innovation et tout le tralala pour arriver à un certain niveau, moi, ça, d'efficacité, c'est-à-dire arriver à des buts avec le moins d'efforts possible ou le moins de temps possible, le plus rapidement possible. On veut avoir une gratification rapide. Et dans certains de mes projets, en fait, je regarde un peu cet aspect des choses.
On recherche aussi la productivité en entreprise.
Oui, oui, exactement, la productivité qui va avec l'efficacité et tout ça. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes projets, dans certains de mes projets. Mais au lieu, bon, d'être moralisatrice ou déterminée à dire, à donner là, un message, etc. Ce que j'aime faire, en fait, c'est de prendre ce thème et puis jouer avec ce thème, de voir un peu le côté absurde, humoristique, de l'aspect non pratique, ben de l'aspect de la pratique, je veux dire, peut-être en rendant certains de mes projets non pratiques,
ouais.
Et puis, mais en riant aussi, en essayant de rire de cela, au lieu de dire c'est mauvais, c'est bon, etc., au lieu de porter des jugements de valeur.
Donc, vaut mieux en rire quelque part. Et non pratique, c'est pas synonyme de difficulté, non, nécessairement.
C'est pas nécessairement la même chose, mais ça peut, il peut y avoir quelque chose aussi de difficile, de plus ardu. Si on prend des exemples.
Oui, oui, parce que les auditeurs qui nous écoutent ne connaissent pas forcément ton travail.
Oui.
Est-ce que c'est de la peinture, de la sculpture, des installations? Peut-être mm-hmm. préciser ou rappeler.
Oui, en fait, ma pratique, on appelle ça aussi une pratique artistique.
Oui, c'est ça.
Même si elle est peut-être pas pratique. Ma pratique artistique, en fait, s'étale sur plusieurs champs. En fait, je fais pas que de la du dessin ou de la peinture. En fait, j'en fais pas beaucoup, du dessin et de la peinture. Je fais plutôt des installations, des sculptures cinétiques interactives. Je fais des performances, des spectacles de marionnettes, etc. Donc, vraiment, je m'étends sur plusieurs sphères. Mais bon, si on veut donner un exemple de quelque chose de plus difficile, disons, si je prends l'exemple du Churnatron, dont on a déjà un peu parlé
oui.
dans le passé, là.
Un véhicule farfelu qui produit de la crème glacée à mesure que les gens pédalent et avancent. Mm-hmm. C'est un genre de structure qui tient un petit peu du vélo. C'est ça?
Oui, c'est ça. Okay. C'est une structure qui tient du vélo. Puis, en fait, ce que je fais avec cette machine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des barattes électriques. Donc, normalement, une baratte électrique, tu mets ça sur ton comptoir, tu mets ta crème glacée, ta glace, puis ça fait le travail pour toi. Donc, tu n'as pas d'effort vraiment à faire, excepté de mettre les ingrédients dedans et tout ça, de faire les préparations. Ici, ce que j'ai fait avec la machine, c'est que j'ai rendu cette machine non électrique, je l'ai rendue mécanique. Donc, c'est un peu comme si tu descendais une marche dans l'évolution, ce que j'appellerais peut-être la dévolution. Puis, donc, on le rend mécanique et en plus de ça, l'aspect mécanique, c'est toi qui dois, avec tes propres jambes, ton propre effort, faire marcher la machine. Et t'en as pas juste une à faire marcher, t'en as six.
Il y a six barattes,
il y a quatre vélos, bon, t'es pas tout seul, ok? Mais bon, ça devient un peu plus difficile à faire fonctionner. Donc ici, c'est pas pratique dans ce sens-là, ou le sens que, bon, on se dit, on recherche c'est pas l'efficacité ici qu'on recherche, c'est pas ce côté-là.
Qu'est-ce qu'on recherche?
Mais je pense qu'on recherche une combinaison de joie, tu sais, une combinaison de joie et puis d'esprit communautaire aussi. Le fait de devoir être quatre personnes pour activer cette machine rend un peu la chose plus communautaire, plus oui, mais c'est ça. Et on a en vivant une expérience avec d'autres personnes, on se rapproche de ces personnes là aussi. Bon, le fait que ça soit
Il faut faire un effort aussi pour obtenir la gratification
de
la crème glacée.
Exactement. Alors, quand on la mange...
À moins d'avoir des employés sur le Turnatron ou même des esclaves, qui sait.
Oui.
Voilà, la façon la plus heureuse et la plus communautaire, c'est sans doute de faire tout ça en même temps avec les amis.
Et la gratification aussi, ben c'est ça, c'est pas seulement que... C'est pas une... L'aspect positif de cette gratification, c'est pas de l'avoir rapidement, c'est de l'avoir fait nous-mêmes. C'est et puis de se dire, ah, c'est moi qui est, grâce à mon action, qui ai produit ce truc délicieux, et puis je peux le partager avec les autres aussi.
Alors, il faut donner un peu de crédit à la vache aussi, à la ferme laitière.
Oui, à la vache.
Est-ce que tu as d'autres exemples d'œuvres qui sont en préparation ou passées qui contiennent un petit peu cette facette non pratique?
Oui, j'en ai plusieurs.
Citons-en d'autres. J'imagine que c'est dans la conférence.
Oui, okay. Oui, je vais parler de quelques projets. Je cible 4 ou 5 projets en particulier qui ont cet aspect et qui ont peut-être aussi un aspect un petit peu différent aussi. Je veux parler peut-être du photophonotron, qui est un...
le quoi?
Le photophonotron.
D'accord.
Qui est né, en fait, de mon émerveillement devant la technologie des téléphones cellulaires qui peuvent prendre des photos. Donc, quand cette technologie est apparue, je me suis dit, ah, c'est vraiment fantastique, tu peux prendre des photos avec ton téléphone. Et comme moi, j'ai pas de téléphone cellulaire, je me suis dit, ben.
Toujours pas.
Toujours pas, non.
Bravo.
Mais au moment où j'ai créé cette performance, c'était une performance, je me suis dit, comment est-ce que moi, avec mon téléphone à cadran, est-ce que je pourrais prendre une photo? Ah, belle question.
En effet.
Alors, ce que j'ai fait, j'ai créé cette performance où j'ai donné, où je donne un rôle à chaque personne dans l'audience pour créer une sorte de réaction en chaîne pour prendre cette photo. Mais là, la photo, c'est plus une vraie photo à la fin, là. Ça devient un dessin plutôt. Il y a une personne qui est le modèle, ensuite il y a quelqu'un qui tient les lumières, il y a une autre personne qui tient les réflecteurs pour la lumière, il y a une maquilleuse, une coiffeuse, il y a des gens avec des casques qui prennent des photos avec un appareil, qui prend une photo avec un appareil Fisher Price là, tu sais, qui en plastique, et puis ouais. J'ai mis un tube qui va jusqu'à un casque pour un tube qui sort du téléphone, qui va pas du téléphone, mais de l'appareil photo, qui va jusque dans un casque, puis la personne qui a le casque est le développeur et doit avoir l'information arrive par sa tête. En fait, bon, c'est un truc complètement fou. Oui. C'est plus un jeu, comme un jeu d'imagination, comme comme les enfants font. Oui. Souvent quand ils sont petits, ils jouent à ceci, ils jouent à cela. Ben là, on joue à prendre une photo avec un téléphone à cadran. Puis le truc, c'est que je donne mon téléphone à cadran au modèle, j'ai dit voilà, je vais prendre une photo de toi avec mon téléphone.
Donc tu vas narrer cette expérience-là, qui est une ouais. installation en temps réel avec un auditoire.
Ouais.
Et est-ce que tu as des photos? Est-ce que tu...
Oui, ouais. J'ai quelques photos ouais. Que je vais montrer. Je vais montrer aussi certaines vidéos, peut-être pas pour le Photophonotron, mais pour d'autres projets. Et puis le Photophonotron, ce qui est intéressant et l'aspect peut-être qui rejoint l'aspect non pratique, en fait, c'est que ça prend une demi-heure pour prendre une photo. Donc là, on est vraiment très très loin de la gratification rapide. Mais à travers tout ça, on arrive quand même à autre chose. C'est comme on se dit, le but c'est de prendre une photo, mais je détourne ce but. Puis à la fin, on voit qu'en fait le but c'était d'avoir une expérience ensemble, de jouer ensemble, d'avoir cette expérience communautaire. Et aussi dans un autre niveau. Pour moi aussi, c'était un peu de démystifier la magie des ou peut-être pas de démystifier, mais de jouer avec l'aspect magique de la technologie. Parce que dans un téléphone, on sait pas... quand on utilise un téléphone, je veux dire, on sait pas trop comment ça marche. C'est un peu magique, c'est cet objet-là qui peut appeler maintenant, qui peut prendre des photos, qui peut je sais pas, tu peux payer des choses, je pense, maintenant, avec ton téléphone. Oui. Tu peux communiquer par Internet. Tu peux faire tellement de choses avec ton téléphone. Tu peux regarder les étoiles à travers le mur. Hein?
Comme, oui, il y a toutes sortes d'applications. Et effectivement, les gens ne savent pas comment ça fonctionne exactement.
Oui. Oui.
Enfin, pour l'immense majorité d'entre mm-hmm. eux.
Oui,
et moi inclus, et toi et moi.
Oui, et en fait, ce que j'ai fait avec le Photophonotron, c'est un peu de dire... on va ouvrir le téléphone, puis je vais vous montrer à l'intérieur comment ça marche. Puis là, ça va être... Mais tout le monde devient une partie du téléphone qui prend la photo. Donc, c'est un peu cet aspect-là que je voulais montrer. C'est un peu le mécanisme à l'intérieur du téléphone. Mais ici, on n'est pas, évidemment, à l'intérieur, mais on peut imaginer qu'on est à l'intérieur de ce téléphone qui prend des photos. Là.
Mais Silicon Valley aurait adoré. C'est très visionnaire. donc, cette conférence, c'est justement, comment dire, tu racontes ce que tu as fait dans cette lignée non pratique.
Oui.
Tu cites des exemples. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a aussi une performance, entre guillemets? Est-ce qu'il y aura quelque chose, un élément? C'est surtout un regard rétrospectif sur cette série particulière. Non pratique.
Oui, exactement. Je vais parler de ces projets puis essayer d'aller un peu en profondeur là, pas seulement dire ok j'ai fait ça, mais essayer d'expliquer les choses un peu puis à travers ces explications, j'espère que les gens vont penser eux-mêmes à l'aspect pratique dans leur vie.
Oui.
Et à voir est-ce jusqu'à quel point l'aspect pratique est vraiment là, insinué dans tous les aspects de notre vie ou presque tous les aspects de notre vie.
Est-ce que c'est la première fois que tu parles de ton travail comme ça? Est-ce que ça a nécessité une réflexion? Il a fallu que tu t'assoies puis tu dises là je vais expliquer alors que tu as l'habitude de montrer et de performer en guillemets.
Oui, mais j'ai déjà fait des petites présentations sur mon travail qui était différente. Ici, j'essaie vraiment de me concentrer sur cet aspect non pratique parce que bon, j'ai d'autres projets dans lesquels cet aspect-là peut-être est pas aussi fort que dans ceux dont je vais parler. Donc je vais mettre cela de côté, je vais vraiment me concentrer sur certains projets et cet aspect-là. Puis je suis assez contente d'avoir décidé de parler de cet aspect en particulier, parce que c'est vraiment quelque chose qui avec lequel j'aime beaucoup jouer. Mm-hmm. Parce que c'est quelque chose qu'on prend un peu pour acquis, auquel on pense peut-être pas assez souvent. Donc,
à l'invitation de l'Alliance mm-hmm. française, ouais. tu prononces cette conférence bientôt. Est-ce qu'on peut rappeler les infos vitales?
Oui, c'est le samedi 29 octobre à 10h30, de 10h30 à midi, à la bibliothèque d'Oak Bay.
De Oak Bay, d'accord. Oak Bay, donc, oui. la salle peut accueillir...
Aucune idée.
D'accord.
Je pense qu'il va y avoir de la place pour tout le monde.
Il y a un café qui est vraiment sympathique dans ce secteur-là qui s'appelle Demi-Tasse. Je ne sais pas si tu connais.
Non, pas du tout.
Peut-être que les auditeurs pourront faire un petit crochet avant de... Je sais que tu ne bois pas de café. Mais le café fait partie un petit peu de la culture de Victoria. Et Demi-Tasse est un spot vraiment très bien. On a un café de haute tenue.
Oui, tu penses beaucoup au café parce que tu n'en as pas bu ce matin.
C'est ça. Voilà. Alors, c'est un rendez-vous. Merci, Nathalie.
Merci.
À la bibliothèque de Oak Bay le 29 octobre, 10h30. À très bientôt.
Merci beaucoup.
C'était Nathalie Leduc à l'antenne de CLS FM 107,9. Merci, Nathalie. Alexis Gagnon au micro. Il est presque 17h. Merci d'avoir passé cette heure d'information avec nous à l'antenne de CLS FM le 107,9 en direct ou en rediffusion. Bonne soirée à tous et à demain.